Bienvenue aux auditeurs de Radio Espérance qui se joignent à nous. Je remercie déjà Sœur Célina qui va nous accompagner donc à l'orgue pour dans les moments de méditation un petit peu entre les textes, après certains textes. Donc en ce jeudi 5 janvier, les funérailles du pape Benoît XVI ont été célébrées ce matin à Rome. Et alors aujourd'hui, en cette première partie de notre veillée, qui débouchera ensuite sur l'heure sainte, nous allons simplement méditer quelques textes du pape émérite. Alors tout d'abord, comme nous sommes le jeudi et que nous allons célébrer l'heure sainte, quelques paroles de Benoît XVI sur l'agonie de Jésus. Extrait d'une homélie prononcée un jeudi saint. La nuit obscure du mont des Oliviers, vers lequel Jésus sort avec ses disciples, fait aussi partie du jeudi saint. En font partie la solitude et l'abandon de Jésus qui, en priant, va vers la nuit de la mort. Jésus sort dans la nuit. La nuit signifie le manque de communication, une situation où l'on ne se voit pas l'un l'autre. Elle est un symbole de la non-compréhension, de l'obscurcissement de la vérité. Elle est l'espace où le mal, qui devant la lumière doit se cacher, peut se développer. Jésus lui-même est la lumière et la vérité, la communication, la pureté et la bonté. Il entre dans la nuit. En dernière analyse, la nuit est le symbole de la mort, de la perte définitive de communion et de vie. Jésus entre dans la nuit pour la vaincre et pour inaugurer le nouveau jour de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Prenons quelques moments de méditation accompagnés par la musique. Suite des extraits de l'homélie pour le jeudi saint de Benoît XVI. Jésus a chanté avec ses apôtres les psaumes de la libération et de la rédemption d'Israël, qui commémoraient la première Pâque en Égypte, la nuit de la libération. Maintenant, il va, comme il a l'habitude de le faire, pour prier seul et pour parler comme fils avec son Père. Toutefois, contrairement à l'accoutumé, il veut avoir à ses côtés trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Les disciples devenaient désormais les témoins de l'humiliation extrême qui était le pas essentiel de la sortie vers la liberté et la vie nouvelle. Les disciples dont Jésus cherchait la proximité en cette heure de tourment extrême, comme un peu de soutien humain, se sont vite endormis. Ils entendaient toutefois des fragments des paroles de la prière de Jésus et ils observaient son comportement. Ces deux choses se gravèrent profondément dans leur esprit et ils les transmirent pour toujours aux chrétiens. Toujours sur le thème de l'agonie de Jésus, un passage très intense, presque visionnaire, très inspiré. Jésus lutte avec le Père, il lutte avec lui-même et il lutte pour nous. Il fait l'expérience de l'angoisse devant le pouvoir de la mort. Avant tout, c'est simplement le bouleversement de l'homme ou même de toute créature vivante en présence de la mort. En Jésus, au contraire, il y a quelque chose de plus. Il étend son regard sur les nuits du mal. Il voit l'insalubre marée de tout le mensonge et de toute l'infamie qui vient à sa rencontre dans cette coupe qu'il doit boire. C'est le bouleversement de celui qui est totalement pur et saint face au flot du mal de ce monde qui se déverse sur lui. Il me voit aussi et il prie aussi pour moi. Ainsi, ce moment d'angoisse mortelle de Jésus est un élément essentiel dans le processus de la rédemption. C'est pourquoi la lettre aux Hébreux a qualifié d'événement sacerdotal la lutte de Jésus sur le mont des Oliviers. Dans cette prière de Jésus, empreinte d'angoisse mortelle, le Seigneur remplit la fonction du prêtre. Il prend sur lui le péché de l'humanité, nous tous, et nous porte auprès du Père. Peut-être que cette vision pourrait être rapprochée d'une parole très prophétique qu'avait eue le futur pape comme théologien, Joseph Ratzinger, aussi loin que 1969. Et c'était lors d'un interview le jour de Noël, 25 décembre 1969, en Allemagne, pour une radio allemande. Je lis juste la fin de cette interview. Et les paroles sont denses, fortes. Pour moi, il est certain que l'Église va devoir affronter des périodes très difficiles. La véritable crise vient à peine de commencer. Il faudra s'attendre à de grands bouleversements. Mais je suis tout aussi certain de ce qu'il va rester à la fin, c'est-à-dire une Église non du culte politique, car celle-ci est déjà morte, mais une Église de la foi. Il est fort possible qu'elle n'ait plus le pouvoir dominant qu'elle avait jusqu'à maintenant, mais elle va vivre un renouveau et redevenir la maison des hommes, où ils trouveront la vie et l'espoir en la vie éternelle. Nous quittons maintenant le domaine du jeudi saint et de l'agonie de Jésus. Je vais vous lire un extrait de la lettre du pape émérite aux fidèles de l'Église qui est à Munich. Cette lettre est datée du 6 février 2022, donc récente. Elle traite de la douloureuse situation du diocèse de Munich dans la révélation des abus qui y ont eu lieu. En fin de lettre, Benoît XVI évoque la perspective qui se rapproche pour lui du jugement particulier. Ces paroles sont d'une intense actualité alors que l'heure de la Pâque a sonné pour lui. Je le cite maintenant. Bientôt, je serai face au juge ultime de ma vie. Bien que, regardant en arrière ma longue vie, je puisse avoir beaucoup de motifs de frayeur et de peur, mon cœur reste joyeux parce que je crois fermement que le Seigneur n'est pas seulement le juge juste, mais en même temps l'ami et le frère, qui a déjà souffert lui-même mes manquements et qui, en tant que juge, est en même temps mon avocat, le paraclet, le consolateur. À l'approche de l'heure du jugement, la grâce d'être chrétien me devient toujours plus claire. Être chrétien me donne la connaissance, bien plus l'amitié avec le juge de ma vie, et me permet de traverser avec confiance la porte obscure de la mort. À ce propos, me revient sans cesse à l'esprit ce que Jean rapporte au début de l'Apocalypse. Il voit le Fils de l'homme dans toute sa grandeur et tombe à ses pieds comme mort. Mais lui, posant sur lui sa main droite, lui dit « Ne crains pas, c'est moi. » Et la lettre se conclut ainsi. Chers amis, avec ces sentiments, je vous bénis tous. Benoît XVI. Et alors, ce qu'il avait écrit quelques mois seulement, il y a quelques mois seulement, s'accomplit. Et au moment de partir de ce monde, ses toutes dernières paroles sont « Jésus, je t'aime ». Ce sont les derniers mots de Benoît XVI sur son lit de mort. Il les a prononcés en italien. Il est mort quelques heures plus tard. Les mots ont été relevés par l'infirmière qui s'occupait du pape émérite aux premières heures du 31 décembre. C'est l'infirmière elle-même qui les a communiqués à l'évêque Georg Genswein, l'assistant secrétaire du pape émérite. Et voilà ce que dit l'évêque Georg. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais l'infirmière me l'a dit peu après. Ce furent ses derniers mots, ce qui est compréhensible, car après cela, il ne pouvait plus s'exprimer. Pendant un temps, accompagné de nouveau par la musique, je propose que nous contemplions ce moment où Benoît XVI a rejoint son Seigneur, mais aussi de prendre pour nous ces paroles qu'il met à la fin de cette lettre, avec ses sentiments, je vous bénis tous, et puis de nous imprégner de cette parole qu'il a dite, Jésus, je t'aime, et qui rappelle aussi un petit peu les dernières paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avant sa Pâque aussi. nous mettons en profonde communion avec le pape émérite, bien sûr, dans le cœur de Jésus. Je voudrais que nous écoutions quelques mots du pape Benoît XVI sur le côté transpercé, le cœur de Jésus. Donc, pour cela, j'ai choisi quelques extraits de la lettre qu'il a écrite en 2006 à la Compagnie de Jésus pour rappeler les 50 ans de l'encyclique de Pie XII, Orietis Aquas in Gaudio. Pie XII avait écrit cette encyclique en 1956 et lui-même l'avait écrite pour célébrer les 100 ans de l'institution pour l'Église universelle de la fête du Sacré-Cœur par son prédécesseur Pie IX. Alors juste quelques extraits de cette lettre et qui nous touchent, nous, particulièrement en ce lieu. Le côté transpercé du Rédempteur est la source. C'est à cette source que nous devons puiser pour atteindre la véritable connaissance de Jésus, Christ, et pour faire plus pleinement l'expérience de son amour. Nous pourrons ainsi mieux comprendre ce que signifie connaître en Jésus-Christ l'amour de Dieu, en faire l'expérience en fixant notre regard sur lui, jusqu'à vivre pleinement de l'expérience de son amour, pour pouvoir ensuite en témoigner aux autres. Une véritable connaissance de l'amour de Dieu n'est possible que dans le cadre d'une attitude de prière humble et de disponibilité généreuse. À partir d'une telle attitude intérieure, le regard posé sur le côté transpercé par la lance se transforme en adoration. silencieuse. Le regard sur le côté transpercé du Seigneur, d'où coulent du sang et de l'eau, nous aide à reconnaître la multitude des dons de grâce qui en proviennent et nous ouvre à toutes les autres formes de dévotion chrétienne qui sont comprises dans le culte au cœur de Jésus. La contemplation pleine d'adoration du côté transpercé par la lance nous rend sensibles à la volonté salvifique de Dieu. Elle nous rend capables de nous en remettre à son amour salvifique et miséricordieux et, dans le même temps, elle nous renforce dans le désir de participer à son œuvre de salut en devenant ses instruments. Les dons reçus du côté ouvert, duquel coulent sang et eau, font en sorte que notre vie devienne également pour les autres une source d'où proviennent des fleuves d'eau vive. L'expérience de l'amour puisée au culte du côté transpercé du Rédempteur nous protège du risque du repli sur nous-mêmes et nous rend plus disponibles à une vie pour les autres. Et là, il termine ici en citant un extrait de la première épître de saint Jean. « À ceux-ci, nous avons connu l'amour, celui-là a donné sa vie pour nous, et nous devons nous aussi donner nos vies pour nos frères. » Nous concluons donc cette petite anthologie par un moment encore de méditation silencieuse, accompagnée par la musique.
Pendant l'heure sainte, je donnerai les pages dans le livret des pèlerins que vous avez peut-être. Et quand il y a dans les deux, dans le carnet de chants édité aux éditions de l'Emmanuel. Ce sera page 37 dans le livret des pèlerins ou page 331, Jésus, adoramus te.
Comme petite méditation d'introduction, comme nous le faisons à chaque fois, j'avais choisi des paroles de Julienne de Norwich, du XIVe siècle. Paroles éclairant le combat spirituel qui parfois se déchaîne en nous et dans toute l'histoire. Et vu les circonstances auparavant, même si ça prolonge un tout petit peu, pas beaucoup, je voudrais dire quelques paroles justement de Benoît XVI, dans la catéchèse qu'il a consacrée justement à Julienne de Norwich, qu'il vénère beaucoup. Julien de Norwich a compris le message central pour la vie spirituelle. Dieu est amour et ce n'est que lorsqu'on s'ouvre totalement et avec une confiance totale à cet amour et qu'on le laisse devenir l'unique guide de notre existence que tout est transfiguré, que l'on trouve la véritable paix, la véritable joie et que l'on est capable de la diffuser autour de soi. Le catéchisme de l'Église catholique rapporte les paroles de Julien de Norwich quand il expose le point de vue de la foi catholique sur un thème qui ne cesse de constituer une provocation pour tous les croyants. Si Dieu est suprêmement bon et sage, pourquoi le mal et la souffrance des innocents existent-ils? Même les saints se sont posé cette question. Illuminés par la foi, ils nous donnent une réponse qui ouvre notre cœur à la confiance et à l'espérance. Dans les mystérieux desseins de la Providence, Dieu sait également tirer du mal un plus grand bien. Comme l'écrivit Julien de Norwich, « J'appris de la grâce de Dieu que je devais rester fermement dans la foi et que je devais donc solidement et parfaitement croire que tout aurait bien fini. » Le pape poursuit et termine dans sa catéchèse. « Oui, chers frères et sœurs, les promesses de Dieu sont toujours plus grandes que nos attentes. Si nous remettons à Dieu, à son immense amour, les désirs les plus purs et les plus profonds de notre cœur, nous ne serons jamais déçus. Et tout sera bien. Chaque chose sera pour le bien. » Tel est le message que Julien de Norwich nous transmet et que moi aussi je vous propose aujourd'hui. Et alors maintenant, l'extrait qui avait été choisi pour cette heure sainte. Parole donc de Julien de Norwich sur le combat spirituel qui se déchaîne en nous et en toute l'histoire. Durant le temps de notre existence, nous qui allons être sauvés, nous connaissons un mélange étonnant de bien et de mal. Nous avons en nous notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et nous avons en nous la misère et la malice de la chute et de la mort d'Adam. Par la chute d'Adam, nous sommes si brisés que par le péché et par diverses souffrances, nous avons le sentiment d'être dans les ténèbres. Aveugles, nous pouvons à peine éprouver le moindre réconfort. Mais par notre volonté, notre désir, nous demeurons en Dieu et croyons avec confiance en sa miséricorde et en sa grâce. C'est ainsi qu'il œuvre en nous. Par sa bonté, il ouvre l'œil de notre entendement, qui nous fait voir parfois plus, parfois moins, suivant la capacité qu'il nous donne. Tantôt il nous élève, tantôt il permet que nous tombions.